Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire.
Oui Laetitia, et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous sommes fiers de passer le micro à une femme incroyable, Catherine Goujard, la fondatrice de l'association Mon âme sœur. Alors cette association a été créée en 2014 et Mon âme sœur aide donc les victimes de violences conjugales et les enfants issus de ces familles à se reconstruire. C'est donc pour nous une évidence que de recevoir Catherine Goujard dans Femmes en Lumière.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors Catherine, comme Myriam vient de nous le dire, tu as créé il y a maintenant 10 ans l'association dédiée à la prise en charge des victimes de violences conjugales, hommes et femmes confondus. On le mentionne car contrairement aux idées reçues, il y a aussi des hommes victimes de ces violences. Et du coup Catherine, on aimerait savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a poussée à créer cette association ?
Alors, c'est une bonne question. Cette association, elle est née avec ma meilleure amie, qui s'appelle Cathy. Et toutes les deux, en fait, nous avons vécu dans notre vie, chacune, une histoire qui nous a amené à ouvrir les portes de cette association. Donc, pour Cathy, ce sont des violences conjugales. 6 mois après elle, ma propre fille. Et on s'est dit, c'est pas possible. Comme beaucoup de victimes, on se croit seul au monde et on se dit, il faut dire que ça existe en fait. Mmh. Et il est vrai qu'il y a 10 ans, on en parlait moins.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, voilà, nous avons lancé cette Mon âme sœur. Alors pourquoi Mon âme sœur ?
Bah oui, pourquoi ?
C'est ainsi que Cathy m'appelle, elle me dit que je lui ai sauvé la vie et que je suis son âme sœur. Voilà, c'est tout simplement ça.
D'accord, donc en fait vous êtes... finalement, toutes les femmes qui se retrouvent dans l'association sont un peu les âmes sœurs l'une des autres parce qu'elles se protègent. C'est comme ça que vous l'entendez ?
C'est surtout une idée, oui, de créer un réseau d'âmes sœurs, oui et non, en fait, parce qu'il faut vraiment être sorti de son histoire pour pouvoir tendre la main aux autres. Mais c'est aussi cette idée d'aider, en fait, de ne pas rester seule et d'accompagner, en fait.
Et alors, du coup... Il faut en avoir du courage parce que même si tu as vécu cette expérience de manière personnelle, mais aussi du coup dans un proche entourage, donc notamment ta meilleure amie, il faut quand même avoir le courage d'oser transformer cette violence que tu as subie ou que ton entourage a subie et d'en faire quelque chose qui bénéficie aujourd'hui à tellement de personnes. Alors aujourd'hui, on sait qu'une femme sur 3 est victime de violences conjugales une fois dans sa vie.
Oui.
Et du coup... Toi, on en parlait tout à l'heure, combien est-ce que tu reçois de victimes dans ton association ?
Alors, cette année, faut dire que nous sommes une petite association, hein, salariée depuis seulement 1 an. Nous existons depuis 10 ans bénévolement. Et cette année, nous sommes déjà à 476 nouvelles victimes que nous suivons et accompagnons juste pour l'année 2024. Nous avons vu en 10 ans plus de 2000 personnes.
Wow. Des chiffres qui feront un peu froid dans le dos quand même.
C'est vrai.
Et tu as aussi bien, donc, comme on disait, des hommes que des femmes.
Bien sûr.
Alors, principalement des femmes, mais au niveau proportionnel...
Alors, effectivement, la proportion, elle est moindre hein, pour les hommes. À l'association, c'est à peu près 4% d'hommes que nous suivons.
D'accord.
Ce qui fait une vingtaine d'hommes, à peu près.
Et alors, comment s'accompagne ce suivi ? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'association ?
Alors, les premières missions de Mon âme sœur sont l'accompagnement juridique et psychologique. Nous avons une bonne quinzaine d'avocats qui travaillent avec nous sur tous les champs. Okay. Et 6 psychologues hein, qui sont là pour accompagner bénévolement les victimes, hein, des sophrologues également.
D'accord, oui, donc une bonne équipe. Et les enfants dans tout ça ?
Alors, pour les enfants, il faut savoir que ça fait pas longtemps qu'ils sont reconnus victimes à part entière. Avant, on les appelait co-victimes et on les laissait souvent sur le bord du chemin. Aujourd'hui, mon histoire personnelle fait écho puisque j'ai une petite fille qui a 10 ans, l'âge de l'association, qui avait 3 semaines.
D'accord.
Quand c'est arrivé. Et aujourd'hui, nous allons, je peux vous l'annoncer ici en tout cas, ouvrir le premier centre de reconstruction pour les enfants est victime de violences conjugales en France. Ça n'existe pas aujourd'hui.
D'accord, donc c'est pas le premier centre du Val d'Oise, c'est non. Au niveau national.
Exactement. Ça fait pas longtemps que les enfants ont été reconnus victimes. Du coup, il y a des projets qui commencent à se monter un petit peu partout, mais c'est vraiment c'est très difficile en fait de pouvoir accompagner les enfants puisque il y a l'autorité parentale conjointe.
Oui, et puis ah, il y a aussi ce que tu disais, c'est-à-dire que un enfant jusqu'à maintenant, quand il était témoin de violence, il n'était pas considéré comme victime.
Oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, ça change. C'est ça qui change.
Ça change. Alors, c'est difficile à mettre en place, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il doit être géré comme un adulte, c'est-à-dire que il doit avoir un avocat, il doit avoir les unités médico-judiciaires, il doit avoir des suivis, il doit avoir un accompagnement. C'est très lourd à mettre en place. Il faut du monde. Les moyens ne sont pas encore tout à fait là, comme d'habitude. Mmh. Et surtout, il faut avoir cette autorité parentale
conjointe, qui va forcément.
Voilà, conjointe va nous poser un problème.
Et là, dans ce centre pour enfants, qu'est-ce qu'il va y avoir en fait ?
Alors, l'idée, ce centre, il est né à l'initiative d'une enseignante qui s'appelait Louisa, qui malheureusement nous a quittés. Mais du coup, c'est pour elle aussi qu'on va se battre et le faire, mener à terme ce projet. Donc du coup, l'idée, c'était d'offrir un moment de répit à ces enfants, en fait. De leur D'accord. proposer d'être enfants, en fait, ce qu'ils ne sont plus quand ils sont au milieu des violences. L'idée même que ce centre soit pilote, en fait, en la matière, nous pousse un petit peu plus en avant et va nous permettre de nommer un conseil scientifique à sa tête pour donner vraiment une bonne orientation à ce centre et les accompagner durablement.
Devenir vraiment la référence, en fait. Vous êtes le numéro un.
Exactement.
L'idée, c'est qu'il y en ait plusieurs qui, après...
Bien sûr, c'est de l'ouvrir à tout le monde. Mmh. Le but n'est pas de se dire « Non, c'est à mon âme sœur, ça reste à mon âme sœur. » Non, il faut l'ouvrir. Il faut que tous les enfants puissent en bénéficier, en fait.
Oui, ça c'est quand même assez... c'est super important, hein, en effet. On se rend pas compte des dégâts que ça cause et des répercussions que ça peut avoir ensuite dans les vies d'adultes, quoi.
On sait qu'aujourd'hui, 75% des enfants qui ne sont pas pris en charge et qui sont témoins des violences reproduisent ou subissent à l'âge adulte.
À l'âge adulte, oui. C'est ça. Donc c'est vraiment un point crucial, en fait,
hein,
si on veut pouvoir...
On le voit aujourd'hui dans nos victimes, hein, ouais. Soit il y a eu de la violence dans l'enfance.
Oui, c'est ça, oui. Mmh. Ouais, vous bien le constatez sûr. Déjà.
Et chez alors, les auteurs, pareil.
Ouais. Et alors du coup, c'est vrai qu'on... aujourd'hui c'est un sujet un peu comme ça, c'est pas un sujet forcément très léger, mais c'est super important d'en parler, et il y a aussi quelque chose qui est important, en fait, à bien appréhender. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une violence conjugale, parce que on en parle comme si c'était évident. Comment on reconnaît une violence conjugale au sein d'un couple ? À quel moment ça devient de la violence, en fait ?
Alors, ça devient de la violence à partir du moment où il y en a un qui a le dessus sur l'autre, où il n'y a pas possibilité de compromis, en fait. La discussion, elle ne va que dans un sens, en fait. Et là, ça devient de la violence, en fait. Quand vous ne pouvez pas exprimer votre opinion, on a des désaccords dans chaque couple, il y a des désaccords. On a tous eu des vies où, voilà, on n'est pas forcément d'accord, mais il y a une discussion qui est possible. Dans les violences conjugales, il n'y a pas de discussion possible.
Donc c'est aussi bien la violence physique que psychologique.
Physique, psychologique, financière, économique,
d'accord.
administrative et cyberviolence, maintenant, on peut rajouter avec les réseaux sociaux.
Oui. Ok, donc très large, en fait. On se rend pas compte quand on dit qu'une femme sur trois a déjà vécu de la violence conjugale au sein d'un couple, c'est qu'en fait, ça comprend énormément de types de violences.
Bien
sûr. C'est pas forcément une claque qu'on va recevoir,
non.
C'est tout type de...
Et c'est toute la difficulté de prouver les violences.
Oui.
Oui, parce que alors je sais que le ministère, je ne sais plus lequel, qui a mis en place un baromètre. Hein.
Alors
c'est le violentomètre.
Alors c'est le Centre Hubertine Auclert, c'est l'Observatoire des violences faites aux femmes, qui a créé le violentomètre, effectivement, avec tout un tas de petites de situations. En fait, voilà.
Oui.
Est-ce que vous vous trouvez dans cette situation?
C'est ça. Donc ça va du vert au rouge, exactement.
Bien évidemment.
Voilà. Et où est-ce qu'on peut se le procurer, ce violentomètre, justement pour, parce que parfois on n'a peut-être pas tout à fait conscience. Peut-être qu'on sent que ça va pas. Peut-être qu'on sent que, et donc ça peut être un
très
outil.
Très souvent, oui, c'est vrai. C'est un très bon outil parce que évidemment, quand on le met à disposition, des fois on voit le visage changer et se dire ah, finalement j'en suis là quand même.
Ouais, c'est ça.
Et on peut se le procurer auprès de du centre Hubertine Auclert. Il y en a un petit peu.
Alors, partout, je sais que dans les mairies,
dans certaines mairies maintenant, ils en ont. Voilà, il y a pas de. On peut le trouver sur Internet.
Voilà. Donc en fait, si on a un doute, si on se sent pas très à l'aise avec avec des situations qu'on vit, bah, ça peut être intéressant en fait d'aller se renseigner.
Bien sûr.
Ouais, ça c'est super important. Alors avec tout ce monde, hommes, femmes, surtout femmes, tellement d'enfants maintenant. Alors t'as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Ça doit impliquer des corps de métiers différents. Enfin la prise en charge, elle doit engager tout un panel de professions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est quoi tous tes soutiens là au quotidien?
Tous mes soutiens. Alors c'est vrai que j'ai vraiment, je suis très entourée. J'ai un conseil d'administration qui est formidable, qui me tient vers le haut. Vraiment, sans eux, je ne serais rien. Et sans les bénévoles, c'est exactement pareil. Vraiment, c'est les avocats. Bien sûr, on a besoin d'être en confiance avec son avocat, même quand on est à l'aide juridictionnelle, ce qui veut dire que on n'a pas l'argent pour payer son avocat, donc c'est l'État qui prend en charge.
D'accord.
On a besoin d'être en confiance et de se savoir écouter. Voilà.
Donc, et là, c'est des avocats, pardon, qui interviennent donc de façon bénévole.
Alors, ils sont de façon bénévole parce qu'ils ont un engagement près de l'association.
D'accord.
Généralement, on ne paye pas le premier rendez-vous. Sont des avocats qui peuvent nous répondre n'importe quand. Même à nous, en fait, c'est surtout aussi à l'association quand on leur soumet, on reçoit une victime, on a une question un peu spécifique, ben on les appelle. Il y en a toujours un qui répond sur 16.
Ah là là.
C'est super.
Bon, ouais, ça redonne un petit peu de baume au cœur quand même.
Ouais. On est très entourés, franchement, et même les psychologues, c'est magique.
Oui. Et alors, bon, il y a un aspect carrément moins drôle. C'est que du coup, forcément, ben, tu déranges, mon âme sœur dérange, potentiellement, alors en l'occurrence, ben, les auteurs hein, des violences. Tu nous as fait part du fait qu'aujourd'hui, ben, tu reçois des menaces de mort.
Oui, je reçois des menaces.
Voilà, sympa.
De temps en temps.
Sympathique, ouais, de temps en temps. Bon. Donc, on sait que t'es amené à devoir préserver quand même la sécurité des victimes.
Bien évidemment.
Voilà.
Et ta propre sécurité aussi.
Et voilà, en dévoilant pas le lieu des prises en charge.
Exactement.
Alors, comment on vit ça en tant que femme soi-même? Comment on vit cette violence, qui s'ajoute à la violence déjà existante, en fait?
C'est une façon d'être, en fait. Ça se travaille. Évidemment, avec des psychologues, hein, ça se travaille.
Oui, tu es toi-même, tu es toi-même accompagnée en fait. Hein.
Bien sûr. Ouais. Et puis surtout, j'en parle beaucoup. S'il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres, je m'en ouvre aux avocats. Enfin, on a vraiment une, on est bienveillants les uns envers les autres au sein de mon âme sœur, de façon à voir si quelqu'un est en difficulté avec une situation, et c'est hyper important en fait de savoir qu'on peut se parler les uns aux autres.
Et ben tu vois, je trouve que ce message il est hyper inspirant en fait, Catherine, parce que tu es en train de nous dire que finalement, bah pour pouvoir aider les autres, faut aussi savoir d'abord s'aider soi-même en
bien
fait.
Bien évidemment.
Hein, voilà, oser déjà parler
bien
pour
évidemment.
Soi.
Et après, on sait pourquoi on se lève le matin.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, merci Catherine pour ce premier témoignage. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour continuer l'émission Femmes en Lumière avec notre invitée du jour, Catherine Goujard, fondatrice de l'association Mon âme sœur. À tout de suite.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. animal déguisé au matin. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Catherine Goujard, fondatrice de Mon âme sœur, association d'aide aux victimes de violences conjugales, est notre femme en lumière du jour. Catherine, le chiffre qu'on va annoncer fait froid dans le dos. Au 18 septembre 2024, on a dénombré 100 féminicides, soit presque 3 décès par semaine en France. Alors, selon toi, tu interviens au moment où le mal est fait?
Parfois. Voilà. En tout cas, le mal est fait, oui.
Le mal est fait, donc les prises en charge, le mal est fait.
C'est ça.
Il y a vraiment une question au vu de ces chiffres qui donnent le tournis. Comment, selon toi, on peut faire pour inverser cette tendance, en fait? Tu vois, c'est comment, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour travailler sur les causes, quoi?
Alors, sur les causes, c'est facile, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on prend en charge les victimes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, de plus en plus, on évolue, c'est très bien. Mais il faut prendre en charge le triptyque. Qu'est-ce que c'est le triptyque? Ce sont les victimes, les auteurs et les enfants.
C'est ça.
Encore une fois, on en revient au même, c'est-à-dire que si on ne prend pas en charge les enfants, ils vont reproduire, on n'arrêtera jamais. Si on ne prend pas en charge l'auteur, on se contente juste de le mettre en prison ou de le sanctionner. Mais comment on peut travailler avec lui sur sa responsabilité?
Alors, ça amène à une autre question. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, comme tu disais tout à l'heure, il y a un enfant qui a été lui-même victime, témoin, etc., aura plus tendance à reproduire. Mais ça m'amène quand même à une autre question. Est-ce que forcément, les auteurs de ces violences ont toujours été eux-mêmes victimes de violences, tu vois?
Pas forcément, mais
et voilà.
75%.
75%.
Quand même. Et vraiment, c'est des choses qui se vérifient. C'est-à-dire que 75%, c'est une statistique. Mais nous-mêmes, nous posons la question lors des entretiens avec les victimes que l'on reçoit. Est-ce que vous savez si, dans l'enfance de l'auteur, il y a eu des violences conjugales? Est-ce que dans votre enfance, il y a eu des violences conjugales? Et la réponse, c'est souvent oui.
C'est souvent oui, d'accord. Et alors, comment ça se répare?
Alors, il y a des associations qui travaillent sur cette thématique avec les auteurs, et c'est vraiment c'est un travail formidable. Hein. Franchement, il faut travailler avec les auteurs, et puis nous, on va essayer de travailler avec les enfants. Et ça, c'est indispensable.
En quoi consiste le travail avec les enfants?
Alors, le travail avec les enfants, il faut déjà les prendre en charge psychologiquement, effacer les traumas qu'ils ont vécus. Puisque souvent on dit ils étaient là mais ils dormaient, ils n'entendaient pas. Mais c'est pas vrai. Les enfants, ils entendent tout. Les enfants, c'est des éponges. Ils entendent, ils absorbent, ils emmagasinent. Et c'est souvent, on peut les voir, ils sont en hypervigilance, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps aux aguets pour voir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Dès qu'il y a un bruit, ils sursautent. Ça, ce sont des enfants qui sont traumatisés.
Et donc toi, du coup, la maison que vous allez, enfin la maison, j'appelle ça une maison
le
parce
centre.
Que c'est
un centre,
c'est un peu, c'est un centre.
Oui, c'est une maison.
Mais un peu une maison cocooning où les enfants vont pouvoir se retrouver et se reconstruire, enfin, en tout cas participer à cette reconstruction. Elle prend tout son sens, du coup, dans la réponse que tu donnes à notre question, dans le sens où si on prend les enfants en charge, et ben on va essayer de réduire ce pourcentage de 75%. Voilà, à le rendre le plus bas possible.
Bien sûr. Et puis même pour leur bien-être, leur évolution. On sait que ça a une incidence hein, sur leur évolution, sur à l'école, dans leur vie quotidienne.
Et justement, en parlant d'école, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, au niveau des messages qu'on véhicule
bien
au
sûr.
Plus grand nombre. Enfin, je sais que tu interviens.
J'interviens auprès de lycéens, mais c'est vrai. Ouais. Et du coup, effectivement, on a une autre petite casquette, la prévention des ados, parce que bah, le centre, c'est bien, sauf qu'une fois qu'ils sont ados, c'est déjà un peu tard, ouais, franchement, pour les prendre en charge. Et du coup, on a lancé la création d'une application sous forme de réalité virtuelle, parce que les ados, bah, on sait que c'est ça qui les intéresse, hein. De façon à un petit escape game, comment je sors des violences, je suis confrontée, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire. Voilà,
c'est... Ouais, donc de façon ludique,
ben oui, faut les attirer.
Ouais, c'est ça, les sensibiliser à ces questions. Et tu ressens aujourd'hui
Vous savez qu'aujourd'hui dans une classe, je suis intervenue dans une classe de première dans un lycée, ouais. 50% des enfants trouvaient normal d'être géolocalisé par leurs petits copains ou leurs petites copines.
Ouais, voilà.
Et j'ai même une jeune fille qui m'a dit mais s'il veut pas que je le géolocalise, c'est louche. Je lui ai dit, faut que t'arrêtes tout de suite, parce que ça, c'est pas l'amour, c'est pas la confiance dans le couple.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est là qu'on voit. Ouais.
Ils n'ont plus cette notion, en fait. On sait qu'aujourd'hui, l'évolution de la société fait que la libération de la parole, on s'insulte facilement et ça devient banal, en fait. Ça rentre dans la banalité, dans les choses normales. Et du coup, bah, quand ça arrive au sein du couple, on fait plus la différence.
Ouais, c'est ça.
Alors que ce n'est absolument pas normal d'être insulté.
Ben oui, c'est ça.
Ne serait-ce que ça.
Et même de subir une pression bien de sûr. Je savoir où tu es, quand,
bien
à
sûr.
Quelle heure.
La géolocalisation, bien sûr. Mais c'est impressionnant.
C'est
ils trouvent ça normal.
Et alors du coup,
ouais, pardon. En fait, ça me fait réagir parce que c'est vrai que souvent, les parents eux-mêmes. Enfin, c'est quelque chose qui devient un peu, qui s'est banalisé avec les smartphones, par sécurité, par peur. Bon, ben en fait, je vais localiser mon gamin.
Voilà. Ils m'ont posé la question. Hein, mais si mes parents, alors je leur dis. Les parents, c'est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a beaucoup de problèmes.
C'est pour la sécurité.
C'est pour la sécurité. Le petit copain ou la petite copine, c'est pas normal.
Oui.
C'est une question de confiance. Dans le couple, il doit y avoir une question de confiance.
C'est un peu paradoxal, hein. Quand même, on est quand même dans une époque où voilà, maintenant les jeunes filles, je pense, elles se sentent libres. Les femmes sont plus libres. Enfin voilà. Et c'est fou de se dire,
pourtant,
on a l'impression qu'il y a quand même un retour un peu en arrière là, une espèce de rétropédalage. Faut être hyper vigilant. En fait, on se rend compte que c'est une bataille qui est jamais gagnée.
Mais non.
Et oui, rien n'est jamais acquis. Et alors, en plus, du coup, quand on regarde les chiffres ministériels de 2022, on se rend compte que, alors, je vais pas parler de choses très sympathiques, mais 82% des décès sont des femmes. Et que 30% de ces femmes qui sont décédées étaient déjà victimes de violences ou avaient déjà déclaré la violence.
Bien sûr.
Alors, c'est ça qui est terrible parce que, comme tu le dis, tu es accompagnée par différentes professions qui t'accompagnent au jour le jour. Mais qu'est-ce que ça dit du système, finalement, tout ça? On porte plainte, il faut porter plainte combien de fois? Enfin, toi, quand tu reçois ces femmes dans ton centre, est-ce qu'elles ont déjà porté plainte? Est-ce que c'est les premières fois? Les chiffres sont assez terrifiants.
Oui, ils sont éloquents. Ils sont... Après, effectivement, c'est toujours compliqué. On dit qu'en moyenne, il faut 7 allers-retours pour quitter définitivement l'auteur des violences.
C'est-à-dire cet aller-retour.
Elle quitte, elle revient. C'est l'emprise, en fait, qui fait qu'on retourne au domicile. C'est en moyenne. Hein. Aujourd'hui, quand même, on en parle beaucoup plus. C'est un phénomène qui est connu, l'emprise. Donc, on arrive quand même à à avancer un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est hyper difficile et on a des outils de protection. On a l'ordonnance de protection, c'est un papier. Mmh. Oui, alors oui, c'est une ordonnance de protection. Certains, ça va faire peur. D'autres, ça fera pas peur. On a des condamnations, mais encore une fois, hein, si on ne traite pas le fond du problème, la condamnation, elle ne sert à rien, mmh. en fait. Et c'est vrai que c'est hyper difficile. Il n'y a pas de risque zéro, on le sait, mmh. malheureusement. Mais en tout cas, on peut faire quand même des choses. Je pense qu'il faut travailler et le gouvernement a mis en place des juridictions spécialisées. C'est-à-dire que le juge aux affaires familiales, le juge pénaliste et le juge pour enfants se parlent, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc ça avance.
Ça avance, voilà, ça permet tout à fait d'avancer.
Oui.
Oui. Alors comme on le disait, bon, le sujet est quand même lourd à porter. Toi, c'est ton quotidien. T'entends des histoires qui doivent être scabreuses. Tous les jours, c'est pas déprimant à force?
Non, c'est pas déprimant parce que la volonté, elle est là. Et puis, si on veut finir sur une note positive,
oui,
ce qui est bien quand même, on a de très belles histoires. Cette jeune femme de 21 ans, perdue, seule, hein, sans famille, qu'on a menée jusqu'au procès aux assises pour une tentative de meurtre, qui aujourd'hui est reconstruite, à un nouveau conjoint, à un appartement, travail, à passer son permis de conduire. Voilà, ça c'est ce qui nous fait avancer en fait.
Bah, c'est ça, c'est la raison d'être.
Toutes ces belles histoires.
Mon âme sœur, voilà. Non, c'est aussi de belles histoires, heureusement.
Ça prend tout son sens. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui est victime de violences conjugales et qui n'ose pas franchir le pas? En une phrase, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Qu'est-ce qu'elle fait?
Il faut pousser la porte des associations, des institutions. Il faut pousser la porte. Jamais s'arrêter.
Ok. Wow, bah merci. Merci Catherine en tout cas pour tous ces conseils qui, j'espère, si jamais on nous écoute et s'il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation, qu'elles osent venir chez toi, chez mon âme sœur, à Aubonne.
Oui,
voilà.
Alors 06 12 40 57 47 30.
Ok, on va le redire, encore une fois.
06 12 57 47 30 24 24 7 sur 7.
Ok, ouais. 24-24, on t'appelle.
C'est important, merci beaucoup. Merci Catherine, notre émission touche à sa fin. Et pour la clôturer, nous avons deux rituels. Alors le premier, c'est le livre fétiche. Catherine, quel est le livre que tu aimerais partager?
La Tresse, l'histoire de trois femmes qui s'impliquent les unes dans les autres. C'est vraiment un livre magique à lire, vraiment c'est un petit livre. Mais c'est mon coup de cœur.
Ouais, c'est une belle histoire de femme, une belle histoire de sororité, femme,
exactement,
de résilience aussi.
C'est ça, tout à fait. Et c'est vraiment les unes pour les autres. C'est le mot. Ouais. C'est l'histoire.
Bon, c'est un peu l'histoire de mon âme sœur en fait.
C'est ça.
Quelque part.
et alors du coup, deuxième rituel, Catherine. Qu'est-ce que nous pourrions souhaiter à cette femme lumineuse que toi tu es? Un beau marché de Noël, peut-être?
Ah oui, c'est vrai, nous serons sur le marché de Noël de Saint-Gratien.
Ah bah voilà un beau rendez-vous.
Super.
Vente au profit des victimes de l'association pour nous aider à avancer encore plus.
Ah bah voilà.
Et donc le marché de Noël aura lieu
C'est du 30 novembre, je crois, jusqu'au 8 décembre.
Ça. Où ça?
Semble-t-il Saint-Gratien.
À Saint-Gratien, marché Noël.
Place
de
du
Noël.
Château Catina.
Très bien, on ne manque surtout pas le stand de mon âme sœur. Tous les dons seront reversés donc à cette association de soutien aux victimes. Nous te souhaitons vraiment tout le meilleur pour la suite, Catherine. Merci pour ce formidable engagement. Notre émission se termine. Un grand merci à tous de nous avoir accompagnés lors de ce témoignage. On vous retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 18h30 en compagnie d'une nouvelle femme formidable et inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site idfmradio.fr et sur Instagram des Femmes en Lumière. Encore merci et au revoir Catherine.
Au revoir.
Merci
à vous pour cette honneur.
Merci.